Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que, encore sans être dérangés, nous pouvons nous rassembler pour écouter la parole de Dieu et ainsi nous préparer pour le jour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui rassemblés de toute l'Europe, du fin fond du nord de la Finlande jusqu'en Italie, tous les autres pays voisins, oui, aussi la Roumanie, tous sont représentés ici, tous ces pays, et nous sommes simplement reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants de ce que nous pouvons nous réunir, nous rassembler pour écouter la parole de Dieu ensemble, la croire et de tout notre cœur la recevoir. Sentez-vous bien. Je devais penser, alors que les frères chantaient en langue anglaise, ces deux cantiques, nous pensons encore au temps où toute l'Europe de l'Est, dans toutes les écoles, avait encore des cours de russe, apprenait le russe, c'était dans le programme, dans toute l'Europe de l'Est. Et quand nous imaginons que toute l'Europe de l'Est parle l'anglais, tous nos voisins, les pays voisins, ont appris l'anglais, ont repris l'anglais, et aussi dans les écoles, et beaucoup de choses dans le déroulement des années ont changé, et nous savons que nous sommes rapprochés de la fin. Mais d'abord, avant d'entrer dans la parole de Dieu, je voudrais dire encore une fois, sentez-vous bien. Nous remarquons même à l'extérieur, comment, tel que le Seigneur l'a dit, dès maintenant, ce sera ainsi que, comme Dieu l'a dit, cela ne cessera pas, l'hiver, l'été, le froid, le chaud, comme c'est écrit dans Genèse, tant que la terre existe, cela ne changera pas. Toutes ces différentes saisons viendront et nous le voyons dans l'extérieur. Et je voudrais le dire rapidement, et donner des salutations particulières. Et nous les avons deux fois de notre bien-aimé frère, Dr Billet. C'est vraiment merveilleux de voir ce que Dieu fait particulièrement au Congo. 350 prédicateurs de toute la région là-bas se sont rassemblés et sont venus se réunir ensemble et ont eu pendant plusieurs jours communion les uns avec les autres, donc comme une convention. Et leur requête principale était que Dieu, pendant ce week-end ici, d'une manière particulière, nous bénisse. Nous sommes liés avec tous dans le Seigneur profondément. Et nous avons des salutations du Brésil, des salutations du Mozambique, des salutations de l'Angola, et ensuite des salutations particulières du frère Wallström, et ensuite des salutations très particulières du frère Graf. En ce moment, il est faible corporellement, que Dieu puisse le toucher et le bénir. Des salutations du frère Gilson, des salutations du frère Daniel de Kapstadt, des salutations du frère Joseph de Kinshasa, des salutations du frère Enodi d'Orléans, des salutations du Chili, des salutations du frère Paul de Nairobi. Et ensuite, nous avons des salutations de Libreville, des salutations du frère Hervé de Lyon, des salutations de la Pologne, du frère Janusz, des salutations du frère Moïse de Denver, Colorado, des salutations encore une fois de Libreville, du Gabon, et encore une fois des salutations. Et ces salutations sont de Bucarest. Ici, nous sommes salués avec Ésaïe 26, verset 4. Tu bénis un cœur qui est ferme en toi de ton salut parce qu'il met sa confiance en toi. Mettez votre confiance dans le Seigneur pour toujours, car en Dieu le Seigneur, vous avez un rocher éternel. Nous avons des salutations de la Russie, des salutations de l'Ukraine, des salutations de Ottawa, de la Russie, de la Côte d'Ivoire, des salutations de notre frère Joseph d'Atlanta, encore une fois, des salutations et encore de Toronto, des salutations et encore une fois de l'Afrique du Sud, particulièrement du frère Daniel, je viens de le dire, le frère Gracian de Ashdod, Israël, remet ses salutations. Ensuite de Mombasa, des salutations du frère Étienne Genton aussi. Il nous salue aussi fraternellement avec la parole d'Apocalypse, chapitre 22, verset 10.
Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem.
Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que la parole produit encore l'effet pour lequel elle l'est envoyée. Seulement rapidement, je voudrais mentionner cela. Nous savons tous que Israël est le point brûlant de l'histoire et ce qui se passe en ce moment est très important et les choses les plus importantes se passent en ce moment au Moyen-Orient. Et quand nous nous représentons cela devant les yeux, quel rôle le Vatican a pris? Et ici nous lisons, vous pouvez tous de l'Internet le sortir, il est dit la chose suivante: Israël et le Vatican atteignent des buts substantiels. Le Vatican veut que sur la montagne de Sion, l'endroit le plus saint qui existe, ils veulent là-bas avoir la salle où le dernier repas a eu lieu, où le déversement du Saint-Esprit a eu lieu, où la tombe de David se trouve. Sur cet endroit important, sur la montagne de Sion, le Vatican veut l'avoir sur sa domination. Et les choses vont dans cette direction, qu'un compromis est trouvé et qu'il pourrait être confisqué. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, mais les Saintes Écritures disent clairement que tous les peuples se rassembleront contre Israël, et les Saintes Écritures promettent qu'une alliance sera faite, annonce sera faite, et les Saintes Écritures ont prédit toutes ces choses à l'avance, et particulièrement quand il s'agit d'Israël et de Jérusalem, tout a été dit à l'avance. Mais aussi, la chose Il y a quelque chose de bien qui a été dit aussi quand il écrit dans Ésaïe chapitre 2 que la montagne de la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem et la loi, donc l'enseignement de la montagne de Sion. Le Seigneur rugira comme un lion de la montagne de Sion. J'ai assez de versets bibliques que j'ai lus qui parlent de la montagne de Sion et qui parle de ce que Dieu fera. Jusqu'à ce verset où il est parlé des 144 000 qui ensuite, après leur scellement, se rassembleront et sont montrés donc sur la montagne de Sion. Mais nous voyons de tout ce qui se passe, dans quel laps de temps, dans quel moment de l'histoire nous sommes arrivés, et que le temps est avancé, très avancé. Par tous ces événements, nous comprenons que le temps est très avancé et que le retour du Seigneur Jésus-Christ s'est encore rapproché et que le dernier message doit être apporté à tous les peuples et doit atteindre tous les peuples, les langues et les nations. Et nous souhaitons au peuple d'Israël les riches bénédictions de Dieu. Et nous disons simplement, comme Paul, ou bien alors avec Paul, qui dans Romains 9 et Romains 10 et Romains 11 a donc de manière particulière éclairci ce sujet, parlant de la partie élue, la partie élue a accepté, a atteint le but, et tous les autres qui ne croyaient pas ont été endurcis. Et la même chose se passe encore maintenant de tous les peuples, les langues et les nations. Celui qui croit Dieu et qui ouvre son cœur, c'est à lui que la parole de Dieu, le plan de Dieu sera révélé. Celui qui ne croit pas et qui ferme son cœur, alors s'accomplit en cette personne. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Tout nous est décrit à l'avance dans les Saintes Écritures. Nous sommes remis dans les Saintes Écritures, transmis, que vraiment, dans le monde entier, à toutes les différentes extrémités de la terre, de droite et de gauche, de partout, que le Seigneur bénisse, et aussi ceux qui sont en ligne, direct, que le Seigneur les bénisse et qu'il reçoive ce qui lui revient de plein droit avec chacun de nous. Particulièrement tous ceux qui parlent d'autres langues et qui sont ici rassemblés et qui suivent la prédication par la traduction, sentez-vous quand même bien parmi nous. Nous sommes comme une grande famille, la famille de Dieu. Et ça, c'est la première promesse que Dieu a donnée. En toi seront bénis toutes les nations de la terre. Donc, que le monde arabe puisse reconnaître que eux aussi, ils sont inclus dans cette bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et tous les peuples. Et que cette bénédiction sera dans toutes les nations. Aussi, il y a des tensions. Ces tensions-là, nous avons remarqué que les tensions qui existent dans le monde sont en train de s'accroître. Et ce qui va bientôt s'accomplir, nous le savons aussi. Mais nos yeux, nos regards sont fixés sur ce que Dieu nous a promis et sur ce qui se passe dans l'Église. Comment est-ce que le Seigneur veut recevoir tout ce qui lui revient de plein droit avec nous et par nous et en nous? Nous avons aujourd'hui tout un nombre de questions qui ont été posées et je vais être sincère. Nous allons seulement rapidement nous tourner vers les questions qui ont été posées. Il y a toujours eu déjà des questions, particulièrement aussi en ce qui concerne l'année 1977. En ce qui concernait l'année 77, il y a eu toujours des questions concernant le fait que Frère Branham avait souvent mentionné cette année 77. Aujourd'hui, j'ai encore reçu une lettre que j'ai relue, pardon, une lettre de 1979 où un frère écrivait et disait, même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure, nous pouvons connaître, n'est-ce pas, l'année. Et l'année est venue et l'année est passée et ils n'ont pas compris. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Quand les Saintes Écritures disent que personne ne connaît le jour et l'heure, cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin de personnes qui philosophient et qui disent que oui, mais on pourrait peut-être connaître l'année. On peut-être connaître. Non, nous avons. Pardon, le mois ou bien le jour. Non. Ils disent qu'on pourrait peut-être connaître le mois ou bien l'année. Non, nous avons assez de respect devant la parole de Dieu et nous nous arrêtons de parler là où le Seigneur s'est arrêté de parler. Et nous, comme information. Allons dans la parole de Matthieu, chapitre 24. Dans Matthieu, chapitre 24, nous avons, n'est-ce pas, la promesse que le Seigneur viendra, mais que personne connaît le jour et l'heure. Et nous sommes simplement reconnaissants pour cela, et cela de tout notre cœur. Car, peut-être que nous lisons d'abord dans Matthieu chapitre 11, pour à l'avance éclaircir ce point. Matthieu chapitre 11, ici nous lisons à partir du verset 25. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il s'agit simplement de cette expression que personne, même le Fils, ne savait pas quand est-ce que l'heure viendrait. Et maintenant, ici arrive le point. Tous ceux qui croient à cet enseignement de Jésus seul ont là un grand problème et disent, mais il était Dieu lui-même, n'est-ce pas, c'est ce qu'ils enseignent. Comment est-ce qu'il peut être alors dit qu'il ne, en tant que fils, il ne pouvait pas savoir aussi cela. Et là aussi, nous avons de nouveau la grâce de comprendre que nous avons le devoir de laisser chaque verset là où il est écrit, dans le contexte, à sa place. Et là, dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, ici, c'est le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et auparavant, au verset 36, il est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On doit pouvoir lire que notre Seigneur a participé complètement à la chair et le sang. Il a été trouvé comme un homme. Il avait un corps comme toi et moi. Nous avons. et que le huitième jour, il fut circoncis, et que en tant qu'homme, il a été trouvé, et il devait devenir homme à cause de l'homme. Laissez-moi rapidement vous lire cela dans l'épître aux Philippiens. Cela nous est dit encore plus clairement, ce que je viens de dire. Nous n'allons pas nous arrêter longtemps sur cela, mais seulement comme orientation. Ici, dans Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, nous lisons le verset 6. Chapitre 2, verset 7. 7 et 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant, donc Philippiens 2, verset 17, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 7 et 8 ensuite. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il relit la fin du verset 7, ayant paru comme un seul homme. Ici, nous ne nous heurtons pas à ce verset. Non, au contraire, nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ce verset. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Ensuite, le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, notre Seigneur, est devenu serviteur. Dieu est devenu homme. Dieu s'est révélé à nous pour nous ramener à lui. Et c'est ce qu'il a fait pour nous reconduire à lui. Encore un verset là-dessus, dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 5. Simplement pour l'orientation, mes frères et sœurs, que en toute chose, nous respectons la parole de Dieu. Et si notre Seigneur dit, le Père est plus grand que moi, alors nous disons Amen à cela. Alors nous savons pourquoi est-ce qu'il le dit. Et s'il dit, moi et le Père, nous sommes un, nous disons aussi Amen à cela. Parce que nous savons exactement qu'ici, il parle en tant que fils de l'homme. Et là, il parle en tant que Seigneur. Quand il dit cela, ensuite dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 7, Hébreux, chapitre 5, Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa prière. Le verset 8. À cause de sa piété, a pris bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici, nous avons le premier-né entre plusieurs frères. Nous croyons ce qui est écrit dans Luc 2, verset 11. Car aujourd'hui, Christ vous est né, le Seigneur dans la ville de David. Nous croyons à 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Personne, 12, verset 3. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. De la même manière, nous croyons que le Seigneur a dû quitter sa gloire et que la Vierge Marie fut déterminée à ce que par elle la parole puisse devenir chair. Cela n'était pas possible autrement. Il fallait que cela soit ainsi. Et c'est pour cette raison qu'il a pu dire que ni les anges au ciel, ni le Fils connaissent le jour et l'heure. Ici, il parle en tant qu'homme, il parle comme un homme, comme simple homme. Et laissez-moi encore dire cela en insistant. Si après, quand nous le voyons, après la résurrection, après sa résurrection, il est seulement désigné en tant que le Seigneur. Il a dit, le Seigneur est ressuscité. Nous avons vu le Seigneur. Et ensuite, il est seulement que le Seigneur. Le Seigneur devait devenir homme à cause de nous. Et comme nous l'avons lu ici, que par son obéissance, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Il lèvera à la perfection tous ceux qui lui obéissent. Lisons encore cela dans Hébreux le chapitre 5, au verset 9. Après avoir été élevé par la perfection, par la souffrance, par la prière, par la piété, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Et c'est comme ça que toi et moi aussi, nous atteignons la perfection dans la foi parfaite, dans l'obéissance parfaite. Et comme il est écrit ici, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux, pour toi et pour moi, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ceci est le jour du salut. Dieu nous a fait grâce. Et disons les choses encore une fois telles qu'elles sont. Jamais nous avons philosophé sur la parole de Dieu. Nous sommes seulement avec tout ce que nous avons dit. Nous avons appuyé cela par des versets bibliques. Nous sommes allés de verset en verset biblique pour démontrer tout ce que nous disons. Et Dieu n'est pas resté sans nous répondre. Et comme dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu et lu, il s'agit de la parole que le Seigneur nous a adressée. Je relis encore cela rapidement dans l'évangile de Jean, le chapitre 17. Ici, cela nous est dit de manière répétée, ce que cela veut dire ici. Lisons cela dans Jean 17, encore le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et tous nous savons que le nom du Père est aussi le nom du Fils. Ça, nous le savons. Parce que le Père s'est révélé dans le Fils. Et que c'est dans le Fils que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et que nous avons été agréés. Et Dieu est devenu notre Père. Ensuite, nous lisons la deuxième partie du verset 6 de Jean 17. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jean 17, verset 6b. Et ils ont gardé ta parole. Ça, c'est le signe de reconnaissance de ceux qui sont nés de Dieu. Ça, c'est le signe de la nouvelle naissance. Ceux qui, en tant que semence incorruptible de la parole de Dieu, ont reçu la parole, la semence, comme semence incorruptible dans leur cœur, qui ne philosophent pas sur la parole de Dieu, mais qui la prennent au sérieux et la croient et la reçoivent révélée par le Saint-Esprit. C'est à cela que le Seigneur dit, « Ils ont gardé ma parole. » Ensuite, au verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Tu les as reçus, je les ai reçus. Nous avons reçu ce que le Seigneur nous a donné, nous a dit. Et Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé. Nous ne voulons pas entrer dans le détail de ces choses. Simplement savoir que tout devait être ainsi, tel que c'était planifié dans le dessein du salut. Et que Dieu exécute son dessein jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Et tel que le Seigneur est devenu semblable à nous, c'est ainsi que nous le verrons tel qu'il est, car nous serons semblables à lui en tant que fils et filles de Dieu qui ont atteint la perfection parce qu'ils ont cru Dieu et ont reçu la parole de Dieu et ont été obéissants. Encore la deuxième partie du verset 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et que nous trouvions encore lu le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole. Pas une interprétation, une explication, mais ta parole, telle qu'elle est sortie de ta bouche. Verset 14. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Repartons à Jean, le chapitre 8. Jean, chapitre 8. Nous avons plusieurs choses qui sont dites ici, qui aussi inondent et donc touchera nos cœurs. Jean 8, à partir du verset 31. Jean 8, à partir du verset 31.
Nun sagte Jesus zu den Juden,
et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Qu'est-ce que c'est alors si nous ne demeurons pas dans la parole? Ça, c'est la condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est seulement ainsi, si nous demeurons dans la parole de Dieu et que la parole demeure en nous, alors le prochain verset, le verset 32, trouvera alors son accomplissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, la parole, la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui affranchit, mais c'est la parole qui nous sera alors révélée. Et alors nous serons affranchis de toutes les interprétations, de tout ce qui n'est pas dans les Écritures. Et nous serons alors affranchis et nous serons ramenés dans la volonté de Dieu. Ensuite ici, au verset 43, nous lisons Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez pas écouter ma parole. Nous remarquons de quoi ici il s'agit. Aussi dans notre temps, il s'agit de la parole qui demeure éternellement. Et cette parole doit en nous demeurer. Dans 2 Timothée, nous apprenons cette grande leçon. Comme vous savez, pour moi, ce verset a une signification très importante. De 2 Timothée, le chapitre 4, Ici, à partir du verset 1, déjà, il est écrit, et je vais vous lire, bien, mes frères et sœurs, simplement, pour nous montrer à tous quel sérieux saint est lié à la prédication de la parole de Dieu. Et nous avons entendu que nous n'allons pas pouvoir prendre tout le temps dans les questions qui ont été posées, mais aussi à l'intérieur du message, il y a tant de questions qui ont apparu, qui ont été posées, mais la réponse est seulement dans les Saintes Écritures. Pas en utilisant des citations et en passant de citation en citation, mais seulement si, avec tout ce qui a été dit, nous reprenons tout cela dans les Saintes Écritures pour, dans les Saintes Écritures, recevoir la réponse. Ici, Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Nous sommes reconnaissants aussi pour le ministère prophétique de Frère Branham. Et là, ici, il faut aussi savoir, comme c'est écrit dans la Sainte Écriture, d'être attentif à la parole prophétique. Qu'est-ce qui est encore dans le futur et qu'est-ce qui s'est déjà accompli? L'ouverture des sept sceaux n'est pas tout de suite alliée à l'accomplissement des prophéties. Par exemple, en mai 1963, ce qui a été dit en mai 1963 se réfère d'abord à tout le laps de temps des 2000 années et montre, s'il vous plaît, le développement antichrist. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en mai 1963. Donc, il parle des premiers quatre sceaux. Cela s'est déroulé, donc les différents chevaux qui sont décrits dans Apocalypse décrivent ce qui s'est passé déjà dans les âges passés. Et ensuite, quand on continue à lire dans le sceau, dans le cinquième sceau, on voit aussi ce qui va se passer. Attendez, il a été dit là-bas, attendez jusqu'à que vos frères souffrent avec vous le martyr. Ce que je voulais dire est la chose suivante. Quand Frère Branham dit que l'agneau a quitté le trône de la grâce et n'est plus sacrificateur et avocat, on doit continuer à écouter et à lire pour voir à quel temps il se réfère. Cela n'a rien à voir avec 1963, où le Seigneur aurait quitté le trône de la grâce, où le sang ne serait plus sur le trône de la grâce. Non! Là, en mai, ça a été la révélation de ce qui va se passer. Et les frères, dans le message, ne font pas la différence des choses. Ils disent, oui, depuis mai 63, le trône de la grâce n'est plus le trône de la grâce, le Seigneur a quitté le trône de la grâce, le sang, etc., et n'est plus le trône de la grâce. Non! Le Seigneur a accompli la rédemption. Et ils disent maintenant que le trône de la grâce est maintenant dans le cœur de ceux qui croient, mais n'est plus au ciel, etc. Non, on doit continuer à lire pour comprendre que tous ceux qui devront passer par le temps de la grande tribulation, il est écrit d'eux dans Apocalypse 7, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Le trône de la grâce reste trône de la grâce. Et le sang de la nouvelle alliance reste sang de la nouvelle alliance tant que Dieu, lui, le déterminera. C'est peut-être raison que je dois toujours insister. La différence entre la révélation des choses qui vont arriver et entre les choses qui se sont déjà accomplies est importante d'avoir cette révélation. Et entre la révélation et leur accomplissement. Les choses ont été révélées sans que ce soit encore accompli. Et les frères ne font pas la différence des choses. Le sang est encore sur le trône de la grâce. Et notre Seigneur est encore rédempteur, sauveur, avocat, médiateur pour toi et pour moi. Encore maintenant, tout est comme c'était. Mais, bien sûr, quand l'enlèvement viendra, et ça je voudrais encore le dire, si les frères pouvaient simplement continuer à lire, ils écouteraient, tel que frère Branham a dit, le Seigneur est dans la colonne de feu. Il est descendu dans la colonne de feu et il s'est révélé à nous. Et il l'a pris et il revendique les racheter. Donc, ce n'est pas le retour du Seigneur, mais c'est sa descente dans la colonne de feu, telle que cela avait lieu dans chaque réunion dans laquelle frère Branham priait pour les malades. Le Seigneur était descendu dans la colonne de feu et en tant que le même s'était manifesté dans les réunions. Ce n'était pas son retour en tant qu'époux, ce n'était pas le retour du Christ. Mais c'était laps de temps dans lequel Dieu revendiquait tout ce qu'il a racheté. Et maintenant arrive le point. Tous les véritables rachetés croient le message divin. Croient que le Seigneur, vraiment, en tant que le même hier, aujourd'hui et éternellement, s'est révélé. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui et que nous prêchons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons compris et dans la foi, nous avons accepté qu'au moment où le Seigneur avait donné ce mandat lié à l'histoire du salut à frère Branham, le message qui lui a été confié sera précurseur du retour du Christ. Et ce message est précurseur. L'ange de l'Éternel lui a dit, si tu réussis à ce que les hommes te croient, Dieu doit nous accorder la grâce de croire le message, d'accepter ce que le Seigneur nous a accordé. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, bien-aimés frères et sœurs, mais si vous étiez à ma place et que vous saviez tout ce qui a été dit et tout ce qui est enseigné parmi le message, et ensuite avoir la grâce que le Seigneur nous a accordée, de reprendre tout dans les Saintes Écritures et d'aller seulement d'Écriture en Écriture et rien d'autre. Continuons ici dans 2 Timothée chapitre 4. Lisons encore, repartons dans Matthieu chapitre 24 pour voir ce qui a été vraiment dit ici. Aussi, le discernement entre le retour du Seigneur et les différentes venues du Seigneur. C'est important. Matthieu 24, ici nous avons la chose suivante écrite. Et nous le croyons. Matthieu chapitre 24, ici nous lisons au verset 27.
Denn wie der Blitz vom Osten aufgeht und bis zum Westen,
car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et nous pouvons remercier Dieu de ce que dans la Bible allemande, nous n'avons pas seulement la parole venue, mais avènement, donc ou bien alors même retour. Ainsi sera le retour du Fils de l'homme en allemand. C'était comme ça dans Matthieu 24, au verset 37, une fois, nous voulons le lire. Matthieu 24, Verset 37. Car ce qui arriva du temps de Noé, Matthieu 24, verset 37, arrivera de même au retour, donc à l'avènement du Fils de l'homme. Ensuite, nous lisons ce qui va se passer lors du retour du Seigneur en tant que Fils de l'homme. Lisons le verset 39. Et ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il les emporta tous. Il en sera de même au retour du Fils de l'homme. Le verset 39, l'avènement donc. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, c'est le retour. Ça, c'est le retour. L'avènement, l'avènement. Mais comme dans la prophétie biblique, c'est ainsi, ce qui arrive avant peut être écrit après dans la chronologie, et ce qui est écrit après peut avoir lieu avant. La chronologie n'est pas toujours dans l'ordre. On doit faire attention. Parce que là, déjà, la grande tribulation est décrite. Ce qui va se passer dans la grande tribulation est décrite avant l'événement, l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons tous qu'avant avant la grande tribulation, nous serons enlevés, n'est-ce pas? Quoique ici, dans Matthieu 24, la grande tribulation est décrite avant l'avènement du Fils de l'homme. Ici, au verset 34, et je vous le dis en vérité, il lit le verset où il est parlé justement de la grande tribulation. Qu'est-ce qui est écrit au verset 30. Il a lu le verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre. Donc, après la grande tribulation, on doit lire exactement la Bible. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ça, c'est après la grande tribulation. On doit exactement savoir où les choses ont leur place. Ensuite, adressé à nous, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il s'agit de quoi ici, bien mes frères et sœurs? Que nous puissions être en train de philosopher sur les citations de Frère Branham? Ou bien alors, où est-ce que, dans la crainte de Dieu, nous avons la grâce de mettre chaque chose à sa place, de revenir à la parole de Dieu, de retrouver tout dans la parole de Dieu, et tel que nous l'avons lu dans Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Que ce soit en tant que venable ou pas, corrige, censure, reprend avec patience et enseignement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons aider. Et la parole du Seigneur nous a été transmise comme enseignement. Personne n'a besoin de s'égarer. Et j'ose même le dire. Nous avons trouvé tous la grâce devant Dieu et nous respectons la parole et nous la trouvons révélée. Comme c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, continuons à lire au verset 3, 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un jour, un temps, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. » Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous avons besoin de personne qui se déclare huitième prophète. Nous n'avons pas besoin non plus de quelqu'un qui veut jouer un rôle. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir un cœur humble pour accepter ce que Dieu nous a accordé par sa grâce et simplement dans la parole de la vérité être sanctifié. Ensuite, au verset 4 de 2 Timothée 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Répétons encore cela, bien frères et sœurs. Répétons-le pour tous dans le monde entier. La grâce que Dieu nous a accordée, c'est de croire comme le disent les Écritures. C'est tout. De respecter entièrement les Écritures, entièrement. Et de placer les choses là où elles ont leur place pour que le dessein du salut de notre Dieu soit tel que Dieu, soit devant nos yeux tel que Dieu l'a planifié avant même la fondation du monde et tel que maintenant il accomplisse. C'est seulement comme ça qu'on pourra en prendre part et être prêt quand il reviendra. Quand nous lisons dans l'Apocalypse, alors il s'agit toujours de nouveau de la parole du Seigneur. Et ça aussi, c'est notre mandat, bien mes frères et sœurs, notre l'ordre que nous avons reçu, de prêcher la parole. Tout le reste, nous le remettons entre les mains de Dieu. Et nous savons qu'il accomplira toutes choses d'une manière merveilleuse en son temps. Ce qui est encore aujourd'hui dans mon cœur est la chose suivante. Que le Seigneur puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Que tous ceux qui ont encore besoin de délivrance, de salut, de guérison, qu'ils puissent expérimenter Dieu selon les besoins qu'ils ont. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train d'écouter une prédication, un message, mais que nous puissions expérimenter le plein salut avec Dieu par la grâce de Dieu et que nous ne nous perdions pas dans toutes ces choses qui sont secondaires, ce que les hommes disent, donc c'est secondaire. Mais que nous puissions nous concentrer à ce qui est écrit, c'est-à-dire celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes furent fermées. Ceci est le jour de la préparation, laps du temps. Et répétons encore cela. Le Seigneur dans notre temps, comme dans les jours d'Abraham, comme dans les jours de Moïse, dans la colombe de feu et la nuée, s'est révélé, s'est manifesté, mais seulement pour un objectif bien précis. C'est pour appeler son peuple à sortir, pour nous éclairer le chemin. Pas seulement nous montrer le chemin, mais l'éclairer pour que nous puissions y marcher. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en éclairant, en descendant avec la colonne de feu. C'est pas seulement pour nous enthousiasmer. Tous les autres vont comme ça se moquer et blasphémer et dire « Ah, ça c'était un charismatique, c'était un évangéliste. » Comme tous les autres, même si le don des miracles était là. Et complètement à la fin, ils disent même « Oh, si il était vraiment un si grand homme de Dieu, cet accident ne lui aurait pas arrivé. Cet accident mortel ne lui aurait pas arrivé. Et quand nous représentons cela devant les yeux, que Jean-Baptiste, qu'avait corrigé Hérode, qu'avait exhorté Hérode, hein, tu as pris la femme de ton frère, ça, cela n'est pas correct devant Dieu. Et à ce moment-là, déjà, il avait dans son cœur, donc Hérode avait dans son cœur donc de la haine contre Jean-Baptiste. Et au moment où la fête a été préparée, et que Hérodias, n'est-ce pas, avait aussi quelque chose à dire. Et cette fille est allée à sa mère et elle a demandé à sa mère ce qu'elle elle a dit, mais qu'est-ce que je dois demander? Et la mère lui a dit, demande donc la tête de Jean-Baptiste. Et elle a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste, je la veux sur un plateau. Et déjà, Jean a été décapité et sa tête est apportée sur un plateau. On aurait pu aussi dire, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas détendu son bras? Pourquoi Dieu a permis cela? Laissez tout à Dieu. Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Ce qui est important, c'est que toi et moi, c'est que nous puissions reconnaître ce que Dieu a comme intention avec nous. Personne ne peut déterminer comment est-ce que la fin d'un serviteur de Dieu doit être. Comment la fin doit être quand on pense à cela de manière comme ça terrestre. Que frère Branham était en voyage de Tucson, Arizona, pour Jeffersonville, pour tenir la plus grande prédication, donc une prédication très importante qu'il avait dans son cœur, donc sur les traces du serpent. Donc, il voulait déjà développer ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden jusqu'à dans nos jours. Il avait déjà le titre de la prédication dans son cœur, les traces du serpent. Et pendant qu'il allait là-bas, il a seulement manqué la sortie. Il devait seulement retourner. Et pendant ces 15 minutes-là où il avait loupé la sortie et qu'il était en train de revenir, c'est à ce moment-là qu'il y a un camion qui a quitté son côté, qui a pris. Et on aurait pu se demander, mais pourquoi est-ce qu'il a dû manquer sa sortie et faire demi-tour? Il avait achevé son ministère, frères et sœurs. Et tout ce qu'il aurait même voulu dire, il avait déjà dit. Même s'il avait une prédication qui était importante pour son cœur, il avait déjà dit. Tout ce qu'il devait nous dire a été dit. Et Dieu nous a révélé ce message par sa grâce. Répétons encore cela. Ne nous inquiétons pas. Des choses, comment elles se sont passées, et ce qui se passe, et ce qui s'est passé avec les serviteurs de Dieu. Lisez Hébreux, chapitre 11. Ils ont été sciés, lapidés. Imaginez-vous un peu cela. Les hommes de Dieu, comme un tronc d'arbre est scié, c'est comme ça que des hommes de Dieu ont été sciés. C'est comme ça que c'est écrit dans Hébreux 11. On aurait pu aussi se poser la question. Oui, mais si c'était vraiment un tel grand homme de Dieu, s'il vous plaît, laissons tout cela. Remercions Dieu pour la parole révélée. Remercions Dieu de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. Et que nous avons la grâce de croire, comme le dit les Écritures, et que dans l'obéissance, par notre marche, nous prouvons l'obéissance à la parole de Dieu, et que par cette obéissance, cela est manifesté que nous croyons la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes de nouveau placés devant le ministère de frère Branham, et nous remercions Dieu de ce que il a confirmé sa parole dans notre temps, comme jamais auparavant, dans les autres âges. Encore ici, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 4, continuons à lire, « Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers les fables. » 2 Timothée, chapitre 4, verset
4.
En nous, c'est justement le contraire qui se passe. Nous avons reçu des oreilles pour entendre la vérité, pour recevoir la vérité. Un cœur qui reçoit ce que Dieu nous a accordé. Nous ne nous détournons pas de la vérité. Nous aimons la vérité. Et il ne s'agit pas de savoir beaucoup. Mais il n'a pas été dit tous, donc ceux qui savent beaucoup entreront dans les noces de l'agneau, non. Mais celles qui furent prêtes Et à notre préparation appartiennent les expériences primitives, authentiques, qui sont témoignées dans les actes des apôtres. La conversion, la nouvelle naissance, la régénération, le baptême d'esprit et de feu, et que nous puissions revenir à ces expériences authentiques de l'Église primitive pour vraiment revenir au commencement. Nous croyons, et il nous a dit, croire comme l'a dit les Écritures. Pour cela, il est nécessaire de croire comme le dit les Écritures. C'est ainsi que le Seigneur confirmera sa parole. Nous devons prier et dire, Seigneur, confirme ta parole, que nous puissions expérimenter ce que nos frères au commencement ont expérimenté. Et ça, c'est justement le moment pour ça. C'est dans ce temps dans lequel nous sommes arrivés. Le message sera précurseur du retour du Christ. Pas un huitième prophète ou bien quelqu'un de quelconque, mais la parole contenant toutes les promesses de l'heure. La parole dans sa forme originale, l'enseignement dans sa forme originale, les expériences avec Dieu telles qu'elles ont été faites par les vrais croyants dans l'Église primitive, dans les actes des apôtres. Dans le plein rétablissement de toutes choses, il faut que tout dans l'Église soit tel que c'était au commencement. Soyez sincères. Est-ce que nous attendons cela vraiment de notre cœur? Est-ce que cette certitude, cette attente est vraiment dans le cœur? Croyons-nous comme le dit les Écritures? Croyons-nous ce que dit les Écritures? Et comme les Écritures le disent, et commençons là où nous devions en fait commencer. Que nous puissions sincèrement consacrer notre vie à Dieu. Qu'il y ait dans notre cœur l'expérience d'une conversion authentique. Que nous puissions dire, « Oh, fais-moi grâce, moi pécheur. Agrée-moi, pardonne-moi. » Et cela doit continuer, que tous ceux qui sont aussi encore affligés par le diable, qui ont des liens ici et là d'une certaine manière ou d'une autre, et qui ne peuvent pas se libérer de certaines choses, qui sont obligés de faire des choses qu'ils ne veulent pas. Quand nous lisons dans les Saintes Écritures, nous savons que les choses s'accomplissaient toujours selon la foi des gens. Le Seigneur a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Résumons ce que nous avons aujourd'hui entendu et ce que nous voulons dire. Le Seigneur a un dessein de salut. Il a donné des promesses. Il nous a appelés à sortir. Il nous a mis à part. Nous sommes par la grâce de Dieu son trésor, son appartenance particulière. Le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce. Car notre Seigneur, en tant que grand sacrificateur, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste. Et le sang parle pour nous. Le sang parle. Et tous, vous savez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre, dans Romains chapitre 8. Dans les premiers versets où il est dit que nos péchés ont été condamnés dans la chair et qu'il a réparé tout le dégât de la chute. Nous avons seulement besoin d'accepter cette œuvre accomplie de la rédemption pour nous et de remercier le Seigneur pour cela. Dieu se tient sur ce qu'il a dit. Et cela doit être encore dit aujourd'hui en insistant. Seulement là où Dieu a pu faire un commencement dans ton cœur, c'est là qu'il achèvera son œuvre. Il est il est celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Il faut qu'il ait pu faire un commencement en toi. C'est seulement là où il a commencé son œuvre, il a commencé quelque chose. C'est seulement là qu'il pourra continuer à agir et rendre son œuvre parfaite pour son retour. Dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 10, il est écrit, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Ce n'est pas tout. « Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma charité et ma constance, ma patience. » Ça, c'est un exemple, un témoignage de l'Église primitive, de ce que Dieu a fait, et en toi et en moi, Dieu a aussi fait de grandes choses. Acceptez cela de tout votre cœur, simplement, bien mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous ne serions pas ici si Dieu ne nous avait pas fait grâce. Et il n'y a pas longtemps, nous l'avons lu, Marie a été, on lui a adressé la parole comme quelqu'un qui avait trouvé grâce. Il lui a été dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, il a trouvé la grâce dans l'époque dans laquelle il vit, d'accepter la parole de la promesse. C'est ce que Marie a fait. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient sur nous pour créer en nous la vie qui est dans la parole que nous avons reçue. Car dans la parole est la semence, et dans chaque semence, il y a le germe de vie. La semence doit d'abord être semée pour qu'elle puisse produire de son fruit. Et c'est ainsi que nous avons semé la parole de Dieu par la prédication, et cette parole a produit de son fruit. Et c'est ainsi que nous allons expérimenter par la grâce de Dieu tout ce que Dieu a promis. Dans cette semence, dans cette parole, dans 1 Corinthiens, ici nous avons les instructions de comment est-ce que nous devons aussi nous comporter les uns avec les autres. Comment est-ce que nous devons nous traiter, comment nous devons aussi nous comprendre, nous consoler, nous encourager et exercer la miséricorde. 1 Corinthiens, le premier chapitre, nous lisons ici à partir du verset 3. Que la grâce, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Pardon, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Pardon, 2 Corinthiens. 1 verset 3. Montrez-moi une famille où il n'y a pas d'épreuve, où il n'y a pas de difficulté. Tous ceux qui passent par des épreuves, prions les uns pour les autres, que nous puissions aussi les consoler et les comprendre et nous tenir auprès d'eux. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous a consolés dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Que nous puissions faire confiance au Seigneur, nous tenir à la parole, aux promesses, et aussi avoir de la compassion les uns pour les autres et être là les uns pour les autres. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, nous lisons la valeur que Paul estimait à la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce temps, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça, c'est très important. Nous n'avons pas exprimé des opinions, bien donné des interprétations, mais la parole de Dieu dans sa forme originale. Et la parole ne reviendra jamais vide à Dieu. Elle produira toujours l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Encore ce soir. Vous qui n'avez pas encore vraiment expérimenté Dieu de cette manière, mettez votre confiance dans le Seigneur. Croyez le Seigneur. Croyez que sur la croix à Golgotha, il mourut pour vous. Et qu'il a porté sur lui toutes vos fautes et vos péchés. Et que c'est à ta place et ma place qu'il a prise. Et c'est à ta place et à ma place qu'il a dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est nous qui étions abandonnés de Dieu. Il a pris ta place, il a pris ma place. Et au moment prochain, à l'instant même où il dit cela, s'accomplit alors ce qui est écrit. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Au moment où il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Dieu fut en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nos péchés furent sur lui. C'est à cause de nos péchés qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et au moment où la lance a percé son côté et que le sang de l'alliance fut versé, alors Dieu était en Christ et a réconcilié à ce moment-là précis le monde avec lui-même. Ça, ce n'est pas seulement l'histoire du salut. Cela est devenu une réalité divine ici sur terre par la grâce de Dieu pour nous. Et ensuite, si nous continuons à lire ici, dans ce que nous avons déjà considéré, que nous n'écoutons pas la parole de Dieu en tant que parole d'homme ou bien opinion d'homme, mais telle que cela, ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 3, 13, c'est ainsi que nous serons alors sanctifiés dans la parole de la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc Dieu a créé toutes choses par ta parole créatrice. Laissez-moi vous lire ça pour que vous puissiez savoir que la parole de Dieu est une parole créatrice qui s'est adressée à nous, tel que le Seigneur l'a dit dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 1. Chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé de nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et maintenant arrive, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Par la même parole puissante par laquelle il a appelé toutes choses à l'existence. Il a dit, et cela s'est accompli. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce qu'il disait était une parole puissante. Cela s'accomplissait. Et ici, il nous est dit que tout l'univers a été créé par sa parole puissante, soutenant toutes choses par sa parole puissante, toutes choses. Lisons encore le verset entièrement, encore une fois. Et qui étant le reflet de sa gloire, il relit le verset 3 d'Hébreux 1, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les cieux très hauts. Les deux choses sont dites ici. D'abord, il a appelé toute la création à l'existence et ensuite, il la soutient par sa parole puissante et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et la droite de l'Éternel conserve la victoire. La droite de l'Éternel reste étendue. C'est ainsi que c'est écrit dans le psaume 118. Il est écrit dans le psaume 110. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tous tes ennemis sous ton marchepied. Tout cela est déjà écrit à l'avance dans l'Ancien Testament, comme dans le plan du destin du salut, comme cela dans le commencement du Nouveau Testament a trouvé son accomplissement. Et disons encore les choses, nous avons la grâce d'avoir part à toutes ces choses et de voir leur accomplissement. Tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau ont accès à la parole de Dieu, croient à la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils savent que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Si nous repartons à l'évangile de Jean, encore une fois, le chapitre 8, c'est simplement merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur, déjà autrefois, comme tous les prophètes et les apôtres ont prêché, et comment est-ce que c'était important, et encore, comment est-ce que c'est important aujourd'hui que tous prêtent l'oreille à la voix du Seigneur, soient obéissants à la voix du Seigneur et reçoivent ce qu'il dit. Ici, au chapitre 8 de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, ensuite, le verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jean 8, verset 45. Qui peut croire, comme le dit l'Écriture? Seulement celui à qui Dieu fait grâce peut croire, comme l'a dit l'Écriture. C'est seulement la grâce de Dieu, ça ne vient pas de nous. Nous pourrons aller de verset biblique en verset biblique pour d'une manière nouvelle nous montrer comme c'est important de tout notre cœur de croire Dieu, d'accepter de recevoir ce qu'il a fait pour nous, d'accepter ce qu'il a accompli et donné comme promesse. Donc tout ce que Dieu en Jésus-Christ, par sa grâce, nous a accordé, l'accepter pour nous. Encore seulement les deux versets de l'Apocalypse. Apocalypse, le premier chapitre, encore une fois, met l'importance sur la parole de Dieu qui demeure éternellement. Apocalypse, premier chapitre, ici nous lisons le verset 2 et 3. Lisons en même temps avec ça le premier verset aussi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Qu'est-ce que nous attestons aujourd'hui? Nous attestons la parole de Dieu. Nous rendons témoignage de la parole de Dieu. Nous rendons témoignage de ce que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est toutes ces choses-là que nous attestons. Et ensuite, nous attestons ce que le Seigneur fait par ta grâce. Ensuite, suit la béatitude au verset 3. Dans Apocalypse 1, verset 3. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, les paroles de Dieu, gardez les paroles de Dieu, car le temps de leur accomplissement est proche. Ensuite, aussi la même parole dans l'Apocalypse, le chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Ici, c'est le verset 9. Mais pour que nous ayons... Pour que nous puissions reconnaître du contexte de qui il s'agit ici et à qui est-ce que ces choses sont adressées et qui est celui ici qui a reçu ce témoignage. Je veux, d'Apocalypse 19, commencer avec le verset 7 jusqu'au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ensuite, verset 9. Maintenant, et l'ange me dit, écris, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Tous ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau, prêtent l'oreille maintenant et croient les véritables paroles de Dieu. Ils les reçoivent, les croient, n'ont pas de questions, mais trouvent la réponse dans les Saintes Écritures. Résumons ensemble de quoi il s'agit ce soir pour nous. Il s'agit simplement de ce que tous ceux, vraiment tous ceux, qui, à qui le Seigneur s'adresse, tous ceux qui écoutent l'appel venez du Seigneur disant, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour vos âmes, que tous puissent ressentir l'appel, que tous puissent répondre à l'appel, venir au Seigneur. Cette parole est encore valable pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. De la même manière, est cette parole aussi d'Ésaïe 53. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Chaque parole de Dieu est un absolu. Chaque parole de Dieu est vraie. Et justement parce que nous venons de mentionner Ésaïe 53, j'aimerais encore lire ce verset pour que vous puissiez savoir que cela est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Ésaïe Ésaïe chapitre 53, verset 4. Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En allemand, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et Dieu est humilié. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
infolge unserer Verschuldungen. Die Strafe ward auf
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aussi le verset 6 doit trouver son accomplissement. Que nous puissions dire, nous étions tous errants comme des brebis. Passés. Il faut que ce soit passé. Pas nous nous égarons, mais nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait au passé sa propre voie. Il faut que cela s'accomplisse aussi comme ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà ce que... Ensuite, le verset précieux, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie, en allemand. Après, par la maladie, s'il vous plaît. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je lis encore le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le frapper de maladie. Au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc c'est une rédemption parfaite que Dieu nous a accordée. Quand nous lisons dans les évangiles, le Seigneur a vraiment, n'est-ce pas, délivré tous ceux qui étaient affligés par l'adversaire, par le diable. Il les a délivrés, il les a guéris. Il a délivré leurs liens de toute emprise du diable. Et tous pouvaient être libres. La même chose est encore aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur a payé le prix. Nous avons été délivrés de la puissance du diable. Et nous avons été placés sous la puissance de Dieu. Cela s'est accompli. Cela est accompli. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. Nous sommes libres. Nous pouvons dire, je suis racheté. Racheté par le sang de l'agneau. Acceptez cela simplement dans la foi. C'est la parole sainte de Dieu. Tout ce qu'il a dit, il se tient sur ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a dit et il accomplit tout ce qu'il a dit. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. J'espère que tous l'ont bien compris. Aussi en ce qui concerne le message et les citations qui ont été faites, que nous puissions réellement, en toutes choses, revenir aux Saintes Écritures et laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle dit et ne rien ajouter et ne rien retrancher, mais apporter l'adoration à Dieu et la louange. Disons encore une fois ceci, bien mes frères et sœurs. Si le Seigneur descend de cette manière, particulièrement par l'ouverture des sept sceaux, et a amené une telle preuve de sa manifestation devant le monde entier, et ensuite l'ouverture des sceaux a eu lieu et liée à cela, était que tous ceux qui croyaient Dieu, tous ceux qui recevaient ce que le Seigneur avait à nous dire, toute la rédemption, tout le dessein du salut, avec toutes les promesses jusqu'à même cette promesse où il est dit, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. S'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Si un noyau de la chaîne ne tient plus, alors toute la chaîne ne tient plus. La chaîne est forte telle qu'un seul noyau est fort. Et c'est ainsi que nous sommes liés avec Dieu et nous allons de promesse en promesse, seulement de promesse en promesse, sans interprétation, sans aucune interprétation. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le message, reconnaissant au Seigneur pour sa parole révélée, reconnaissant au Seigneur pour son plein salut de tout ce qu'il nous a accordé en Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit l'honneur dans toute éternité. Amen. Lèvons-nous et ensemble remercier Dieu. Vraiment remercier Dieu. Et avant de le faire, j'ai cela dans le cœur, que tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu, que nous puissions les inviter et leur dire de ne pas laisser passer l'appel. Et nous le disons sous l'ordre de Dieu. Le Seigneur vous appelle encore aujourd'hui. Il pardonne les transgressions. Il ne se souvient plus du péché. Il a fait une nouvelle alliance avec nous par le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour nous. Remercions le Seigneur de ce que le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce et qu'avec assurance nous pouvons nous approcher
et
pouvons recevoir ce que Dieu nous a accordé par la foi, dans la foi. Tous ceux qui sont là pour la première fois, tous les jeunes, consacrez votre vie au Seigneur. C'est encore le trône de la le temps de la grâce subsiste encore, demeure encore. Et le jour de la grâce, c'est ce jour, le jour du salut, c'est ce jour où vous avez dit oui au Seigneur, où le Seigneur vous a donné d'accepter ce qu'il a accompli pour vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix dans tous les domaines, en ce qui concerne, que cela concerne la rédemption, les promesses, tout ce que la parole de Dieu nous dit, en toutes choses, nous croyons de tout notre cœur. Et le Seigneur l'accomplit en nous. Qui veut lever les mains? Nous courbons les têtes, fermons les yeux et persévérons dans la prière. Oui, les mains sont levées partout. Que Dieu le Seigneur vous bénisse. Que Dieu le Seigneur vous bénisse de la plénitude de sa grâce. Chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, nous avons entendu ta parole, le plein évangile, le plein salut, tu nous l'as accordé, le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit, la guérison du corps. Tout a eu lieu sous la croix à Golgotha. Et nous avons la grâce de porter la parole de la croix et la parole de la croix est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Que cela soit manifesté, que ta parole, la parole créatrice, la parole toute puissante devient ce soit une puissance de Dieu en tous ceux qui de tout leur cœur croient. Et nous croyons comme l'a dit les Écritures. Nous l'acceptons. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez rachetés. Par le sang de l'agneau. Par la puissance de Dieu. Acceptez cela. Et remerciez le Seigneur pour cela. Car il nous a donné les promesses. Il les a accomplies. Et il a sauvé les âmes. Délivré l'esprit. Et guéri le corps. À lui, notre Seigneur, nous donnons pour cela tout l'honneur. Maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia. Que tout le peuple dise Alléluia. Gloire à Dieu. Honneur et adoration. Sois au Seigneur, notre Dieu. Si nos sœurs ont un cantique, elles peuvent venir le chanter. Tous, nous restons dans l'adoration devant le Seigneur avec un cœur reconnaissant pour ce qu'il a fait, encore ce soir, ce qu'il a fait. J'espère que aussi dans le monde entier, des frères qui ont des difficultés, que Dieu puisse leur avoir donné la réponse.
Nimm mein Leben, lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück, Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich werde dein, gänzlich und für immer sein.
Amen.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Alle zusammen.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Amen. Amen.
Frère Schmidt, prie encore. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que chacun écoute ici et en ligne. Nous venons à toi tous pour te remercier de ce que tu as versé ton saint sang. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés par ta grâce. Nous te remercions de ce que encore aujourd'hui tu es le même et que tu exauces les prières. Nous t'amenons encore tous devant ta face. Tous ceux qui, dans la foi, regardent à toi, s'il te plaît, bénis, guéris, sauve, délivre, appelle à sortir. Nous te remercions. Loué sois-tu pour ta sainte parole. De ce que nous n'avons pas besoin de courir à droite et à gauche, d'aller là et là. Mais si nous avons des questions dans nos cœurs, la réponse est dans les Saintes Écritures. Nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons pour cela. À toi, notre Dieu, dans le Seigneur de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Conserve-nous, garde-nous dans ta parole. Et si un demain encore existe, conduis-nous à nous réunir encore sous le coup de ta parole, dans ta grâce, dans l'attente de ce que tu vas faire, car tu as encore préparé beaucoup pour nous, comme il est dit, des choses au-delà de ce que nous pourrions demander et penser. Amen. Nous voulons maintenant prier pour tous les frères dans le ministère, dans le monde entier. Que le Seigneur soit avec eux et qu'ils puissent respecter sa parole et demeurer dans sa parole, dans les prédications qu'ils tiennent et dans tout ce qu'ils disent. Prions. Bien-aimé Seigneur, tu envoies ta parole pour nous guérir. Et tu envoies ta parole, tu envoies tes messagers pour prêcher ta parole. Et nous te prions pour tous nos frères, et particulièrement pour les 350 frères qui là-bas sont rassemblés, et pour tous les frères dans tous les peuples, les langues et les nations. Bien-aimé Seigneur, reçois ce qui te revient de plein droit. Que un réveil ait lieu et que tous soient conduits par ton esprit dans la prédication de ta parole qui demeure éternellement. Que ta parole soit une parole tout-puissante dans notre vie, une parole créatrice qui crée tout ce que tu as promis et qui le manifeste. Nous te croyons, nous savons que tu auras une épouse, elle sera sans tache, sans ride, irréprochable. Nous te remercions pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Sois avec chacun de nous et aie tes voix avec chacun de nous. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que tout le peuple dise Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Soyez remis à la grâce du Seigneur. Pensez à cela. Nous sommes ici dans la maison de Dieu. Donc, les parents, faites attention à vos enfants. Demain matin, le déjeuner est à 8 heures. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Et ce soir, veillez à tenir au silence dans les dortoirs et dans les chambres. Merci.